Lizzie présente Pirates, corsaires et flibustiers d'Alain Blondy. Lu par Mathieu Buscato. Avant-propos. Du pirate au corsaire. Depuis le XVIIIe siècle, dans l'imaginaire européen, le pirate n'est plus que le produit fallacieux d'une littérature qui, pour attirer des lecteurs, a outré la réalité et a fait successivement des vikings et des pirates des sortes de sauvages, dont la brutalité n'avait d'égal que l'avidité. Cette vision outrancière a caricaturé les uns en barbares chevelus et barbus, coiffés d'un casque cornu, et les autres en créatures de sabbat, rythmant, tels les satyres d'antan, leurs orgiaques méfaits du bruit cadencé de leurs jambes de bois sur le pont de leur navire. Ces caricatures, faites pour aguicher le bourgeois qui aime à frissonner d'horreur dans son fauteuil, ont, grâce à leur intensité parfois graveleuse, un bien plus fort impact que la réalité, somme toute plus triste, sinon plus triviale. D'Artagnan, mousquetaire de Louis XIII sauvant Anne d'Autriche du scandale, est bien plus intéressant que le véritable D'Artagnan, agent de besogne plus ou moins discrète au service de Mazarin et de Louis XIV. Sans ouvrir un conflit assurément perdu d'avance, avec une littérature à sensation d'autant plus préjudiciable à la vérité qu'elle est souvent talentueuse, il semble important de dégonfler un peu la baudruche des excès littéraires et de tordre le cou aux idées reçues pour rétablir la réalité bien plus prosaïque, de la piraterie comme de la course, et de ramener ces dernières à leur dimension de marginalité sociale et de larcin économique. Or, pour bien comprendre un phénomène humain, il faut en connaître la genèse. Rien dans l'histoire de l'humanité n'existe ex nihilo. Au contraire, tout découle de l'antériorité. Et il faut être ignare pour croire que l'on peut en faire table rase. Aussi semble-t-il important de présenter un déroulé synoptique et chronologique des diverses formes d'aventures de mer, mais aussi de préciser le contenu de notions lexicales trop souvent utilisées l'une pour l'autre. Le pirate n'est pas plus identique au flibustier ou au corsaire que le bandit ne l'est à l'usurier ou au banquier. Pour œuvrer sur le même théâtre maritime, ils n'en ont pas moins un statut différent. Même si, pour compliquer la chose, certains n'hésitèrent pas à passer de l'un à l'autre dans le courant de leur vie. Pendant longtemps, on a cru que l'aventure maritime de l'homme avait été contemporaine de sa sédentarisation et de sa transformation en agriculteur-éleveur. Aujourd'hui, de récentes fouilles archéologiques ont montré que des hommes s'étaient aventurés en mer bien avant le néolithique, en réalité dès la fin du paléolithique supérieur, entre moins 17 000 et moins 15 000. Certes, ce ne furent pas des migrations d'importance, mais elles avaient été suffisamment organisées pour que plusieurs êtres humains aient pu se transborder d'un rivage à un autre. Sur des pirogues monoxyles ou sur des radeaux, mus par la simple curiosité de découvrir les terres qu'ils apercevaient ou par un besoin métaphysique de découvrir l'outre-monde, ils vainquirent leur frayeur de l'élément liquide pour atteindre des îles ou des terres nouvelles. Ces premiers explorateurs furent de véritables héros pour leurs contemporains, tels à notre époque les pionniers de l'aviation ou de l'espace. Tout changea lorsque les déplacements en mer furent maîtrisés, puis banalisés. La mer cessa alors d'être un fossé de terreur, pour devenir un lien entre les continents et les îles. Le marin était né. Une première différenciation se fit alors entre les pêcheurs, terriens vivant des produits de la mer, et les marins proprement dits, vivant de leur maîtrise de la circulation sur l'élément liquide. Aristote lui-même, envisageant la diversité des modes de vie des hommes, cite dans sa Politique, à côté de l'agriculture, la transhumance, la chasse, la pêche, mais aussi le brigandage et la piraterie. En effet, à partir du troisième millénaire avant Jésus-Christ, le développement de la métallurgie suscita une importante nécessité d'échange, qui entraîna un développement extraordinaire du commerce maritime. Les mers, à l'instar des routes terrestres, furent alors parcourus par de riches chargements. Mais alors que sur Terre les pouvoirs politiques tentaient, avec un bonheur inégal, de sécuriser les transports, les mers demeuraient un espace sans loi. Aussi devinrent-elles le royaume de prédateurs, les pirates. Ce sont les Grecs qui leur donnèrent ce nom de peirates, du verbe peirao, qui veut dire tenter, entreprendre, et par là, chercher fortune, se faire brigand. Leurs méfaits s'ajoutèrent, pour les marins, aux catastrophes maritimes naturelles. Ainsi, les dangers de la piraterie, avec les avaries dues aux tempêtes et les naufrages, constituèrent ce que l'on appela plus tard la fortune de mer, désignant autant l'enrichissement que le hasard chanceux ou malchanceux. Dès l'époque mycénienne, 15e-12e siècle avant Jésus-Christ, les puissances politiques en tirèrent la conclusion qu'il leur fallait mettre en place une force navale pouvant contrer l'anarchie maritime. Apparurent alors les premières unités de ce qui deviendra la marine de guerre. Comme elles ne pouvaient pas être soumises aux seuls aléas de la force éolienne, elles prirent la forme de bateaux rapides glissant sur l'eau, avec un nombre important de rameurs, embarqués pour suppléer l'absence de vent et accroître la vitesse de navigation. Trières grecques ou trières romaines furent les prototypes de la galère. Avec elles, apparut alors la nécessité d'une chiourme pour laquelle, fort naturellement, esclaves et criminels, gratuits, étaient préférés aux rameurs professionnels. Pendant des siècles, les pouvoirs publics luttèrent à la fois contre les brigands de grand chemin et contre les pirates, leur réservant, s'ils étaient pris, la mort dans des supplices spectaculaires, tels la pendaison haut et court, qui avait le double avantage de permettre à chacun de voir le supplicié, mais aussi d'économiser le chanvre, le condamné ne valant pas le prix de sa corde. Dès l'Antiquité, le monde maritime fut conçu comme un espace sans aucune règle où dominait le plus fort. Chacune en leur temps, les marines crétoises, phéniciennes et grecques ont prétendu s'imposer, mais à chaque fois elles eurent à se confronter à des pirates qui estimaient que les mers étaient le bien de tous et qui répondaient à la force par leurs ruses. Toutefois, cette lutte contre les brigands de mer ne fut pas systématique, car l'écoulement du butin qu'ils avaient accumulé, et notamment des esclaves qu'ils avaient faits, approvisionnait les marchés. Il existait donc une sorte d'osmose entre les pirates et les ports. Ainsi, à propos des pirates géorgiens qui, au détroit entre les actuelles mers d'Azov et mer Noire, équipaient des flottilles et attaquaient tantôt des navires marchands, tantôt un territoire ouvert, voire une ville, Strabon, au début de notre ère, écrit dans sa géographie « Du reste, les populations du Bosphore semblent vouloir quelquefois elles-mêmes favoriser leur déprédation en leur prêtant non seulement des abris pour leurs embarcations, mais encore des comptoirs et des entrepôts pour leurs butins. Ainsi, comme on peut le lire dans les travaux d'Yvon Garland, pirates et marchands surent aussi pratiquer certaines formes de collaboration dictées par l'intérêt bien compris des deux parties, par la nécessité pour l'une d'écouler sur le marché une portion variable du butin, et pour l'autre de se ravitailler à bon compte et surtout de se procurer des marchandises qui, bien qu'étant l'objet d'une demande croissante, n'apparaissaient guère sur le marché par des voies pacifiques. Il s'agit des esclaves. À Rome, où le commerce était dominé par l'échange de vin contre des esclaves, dont les pirates étaient les principaux pourvoyeurs, la République fit preuve de nonchalance dans la lutte contre la piraterie tant qu'elle eut besoin d'en profiter. Mais quand certaines puissances furent assez fortes pour s'imposer régionalement, la défense de leur sécurité et de leur commerce leur fit considérer comme de dangereux gêneurs ceux qui s'enhardissaient à ravager leurs côtes et à exiger des rançons. Toutefois, les incursions terrestres, les razzias, les prises de navires et de butins, les enlèvements, étaient néanmoins justifiables s'ils s'intégraient dans le cadre du droit de représailles contre un ennemi. C'est alors que, au nom de cette violence légitime, des États n'hésitèrent pas à recourir à des mercenaires maritimes, chargés du harcèlement des côtes de l'ennemi ou de neutres indécis. Aussi, quand l'on étudie la piraterie, met en garde Yvon Garland, il faut donc se garder de faire abstraction des structures étatiques qui la sous-tendent et de la conjoncture politique qui la nourrit, même si elle nous paraît souvent, faute de documents suffisants, fonctionner de façon autonome. Encouragés par les pouvoirs politiques qui y trouvaient leur intérêt, ces pirateries d'État n'étaient pas sans analogie avec ce que fut par la suite la course, c'est-à-dire le raid en mer pour le service d'une puissance publique. Ainsi, dès le départ, l'étroite différence qui exista entre la piraterie et la course fut liée d'une part à la conception que l'on se faisait de la liberté des mers, et d'autre part à l'avancée de la structuration des États.